On aimerait ça ce matin, juste avant d'aller dans la parole de Dieu, prendre un instant pour prier pour la ville de Fort McMurray en Alberta. Vous êtes au courant un petit peu, vous suivez dans les médias, sont vraiment le feu dévaste, c'est incroyable. Je partageais avec à la maison ce matin, il y a juste la pluie qui peut arrêter ça, là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent, puis ils espèrent, ils attendent la pluie. C'est tout. Il n'y a rien qui peut faire la différence. On a juste dans notre famille d'église à nous, il y a deux assemblées qui sont affectées par ça, deux églises. Alors peut-être certains d'entre vous, vous vous demandez déjà, est-ce qu'on va pouvoir donner un coup de main? Notre association est déjà en train de regarder ça. On a des courriels qui circulent, ils sont en contact avec les pasteurs là-bas. Il y a une assemblée de 200 personnes qui était à Fort McMurray. Puis il y a une autre assemblée qui est dans le même secteur d'une église en implantation, une vingtaine de personnes qui sont affectées. Et puis ces églises-là étaient actives dans la communauté, aidaient déjà à travers des banques alimentaires, tout ça. Donc on vous reviendra pour ça. Mais on aimerait ça au moins ce matin, aller dans la prière ensemble, puis prier pour eux. D'accord? Il y a des gens qui ont des vies brisées à travers ça. Il y a des choses vraiment difficiles qui se vivent là-bas. Alors, si vous le permettez, on va juste aller encore une fois dans un mot de prière. Père éternel, ce matin, en me levant, la pluie avait un autre sens pour moi. Dans cette belle journée de la fête des mères, je la trouvais belle, ta pluie, Seigneur, parce que ça me rappelait cette situation désastreuse, catastrophique, Seigneur, là-bas à Fort McMurray. Ces vies, Seigneur, qui sont dévastées, plusieurs d'entre elles, ces vies brisées. Et parce que tu nous rappelles, Seigneur, à travers la nature, combien nous sommes petits, combien nous sommes dépendants. Et chaque jour de grâce commande des actions de grâce de notre bouche. La santé, la sécurité, une maison qui se tient debout, un toit pour se mettre à l'abri, ce sont tous des grâces, Seigneur. Et ces gens passent par l'épreuve. On veut te demander, Père, on veut te demander d'intervenir. Tu calmais les tempêtes, Seigneur, avec ta voix. Tu fais venir la pluie selon ton bon désir. Nous croyons cela, Seigneur. Plusieurs nous diraient naïfs, mais nous croyons en Dieu. Et nous croyons que Dieu est souverain, que Dieu est tout-puissant. Alors, on te prie, Père, de mettre ta main sur cette situation là-bas, de fortifier, Seigneur, les milliers de sapeurs-pompiers qui sont en train de travailler, les pilotes d'avion qui souvent se mettent en situation périlleuse pour aller faire une différence, de mettre ta main sur les familles qui sont séparées des fois. Je lisais cette histoire de parents qui ont été séparés de leurs enfants pendant une journée parce que le feu les avait séparés puis se sont ensuite retrouvés. Mets ta main, Seigneur, mets ta main sur les chrétiens qui sont là, qui peut-être eux-mêmes sont... troublés par leurs propres épreuves et doivent avoir un témoignage à ta gloire à travers ça. Seigneur, sois là, viens faire la différence, interviens, Seigneur, garde-les dans nos cœurs, nos pensées et montre-nous comment nous pourrons, Seigneur, venir faire peut-être une petite différence en étant généreux par la suite. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. La pluie prend un autre sens, n'est-ce pas? Alors, ce matin, on s'en va dans Malachie. On s'en va dans Malachie, puis on va la foi, la spiritualité va devenir plus concrète ce matin. Lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, la foi avait quelque chose de très, très concret. Ça ne devient pas plus concret que lorsque tu as du ciment, puis de la pierre, puis des choses comme ça, d'accord? C'est très, très concret. Et donc, en Israël, il y avait un temple. Dieu habitait au milieu de son peuple, de manière figurative et bien réelle aussi, par la présence d'un temple. Et le peuple était appelé à entretenir ce temple-là. Et donc, tout ça rendait la foi concrète en ce sens que non seulement on adorait le Dieu invisible, mais on pouvait, de manière visible, se rendre à un endroit où on pouvait aller adorer Dieu, servir Dieu, aller confesser des péchés, confesser des fautes de manière concrète au temple, offrir des sacrifices. C'était très concret, très réel, bien présent. Et c'est comme ça dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, si vous avez peu de connaissances bibliques ou c'est nouveau pour vous la foi, vous explorez la foi chrétienne, vous dites, mais les chrétiens n'ont pas de temple vraiment, ils ont comme un bâtiment qui, ma foi, est assez humble et simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bibelot ici, il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas de choses, de sparage incroyable ou quoi que ce soit, c'est assez simple. Mais en même temps, parce que la venue de Jésus-Christ est venue bouleverser beaucoup de choses. Le temple était une métaphore, était un symbole qui annonçait un endroit où il y avait un sacrifice, qui annonçait un sacrifice bien réel, celui de Jésus-Christ sur la croix. On va revenir à ça un petit peu plus loin tout à l'heure. Mais simplement pour se remettre en contexte, parce que ce matin, il va être question de manière très concrète, par exemple, de l'argent qu'on peut donner. Et donc, les Juifs, le peuple d'Israël, étaient appelés à donner généreusement une dîme, même des dîmes, même des offrandes pour entretenir effectivement le temple, de manière très concrète, les prêtres, tout ça, pour voir aux besoins et à travers cela, témoigner, rendre un témoignage de l'engagement de leur cœur envers Dieu. D'accord? Mais je veux juste vous lire un passage parce que ça soulève toute une question. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Juste avant de lire le passage, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Est-ce que Dieu a besoin que je donne des sous? Est-ce que le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui a besoin de notre fric, de notre blé? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est Dieu. Dieu a besoin de rien. Et un beau passage qui nous aide à voir ça, c'est dans Ésaïe 66, versets 1 et 2. En parlant du temple, voici ce que Dieu dit. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Donc c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise une maison. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu est parfait, entièrement autonome. Dieu n'a pas besoin de la terre. Il n'a pas besoin de nos louanges, de notre adoration. Mais en même temps, à travers toutes ces choses très concrètes, à quelque part, la vérité de notre relation avec Dieu s'exprime lorsqu'elle se traduit en action. Et c'est ça qu'on va aller voir ce matin. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse de manière aussi franche et directe à ce que le peuple d'Israël est en train de donner ou non? Et ça va être l'occasion pour vous ce matin, si pour vous la foi, puis les biens matériels, la foi, puis l'argent, c'est des choses qu'on ne devrait jamais mélanger parce qu'il y a toutes sortes d'abus qui se sont faits. C'est vrai qu'il y a des abus qui se sont faits. Mais on va voir ensemble ce matin que séparer constamment ces deux choses-là, en réalité, c'est vivre une foi qui est très superficielle, un petit peu comme on le veut, et qui ne se traduit jamais dans le réel. On va écouter ensemble la parole de Dieu que Camille va nous lire.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Malachie, au chapitre 3, versets 6 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Malachie, au chapitre 3, versets 6 à 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées.
Merci, Camille. On est des drôles de bibittes. J'ai l'occasion de jaser avec plein de gens, des chrétiens, des non-chrétiens. Hier, un mariage, jase avec les gens après, pendant la réception, tout ça. Puis souvent, je suis frappé à quel point on est des êtres de contradiction. On a de la difficulté comme à être juste intègre avec les choses qu'on dit, qu'on pense, qu'on prêche. Puis des fois, on jase avec les gens, puis ils vont dire « Dieu, c'est pas réel. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il a un impact dans nos vies, mais Dieu, je le vois pas. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas concret pour moi. » D'autres personnes vont dire « Dieu, sûrement. » Sûrement qu'il y a un Dieu à quelque part qui est là, puis oui. D'autres personnes, ça va être, moi j'ai la foi. Moi je suis croyant, je crois, Dieu est là dans mon cœur, puis on a un créateur qui existe, c'est clair pour moi. Dieu est là, je suis croyant, j'y parle. J'y parle souvent, des gens vont dire ça, je parle à Dieu. Donc c'est là. D'autres vont à l'église, puis ils disent, moi je suis croyant, c'est clair, je suis chrétien. Puis lorsque dans la conversation, les choses deviennent un peu plus concrètes. Lorsqu'on dit « OK, mais devenons plus concrets », alors lorsqu'on parle d'aller à l'église ou de mettre cette foi-là en action, de devenir généreux, de partager, de mettre un petit peu les mains dans mes poches pour aider quelqu'un qui est mal pris, là, tout d'un coup, le discours change. Oh, la foi, tu sais, c'est quelque chose de très, très personnel. La foi, là, moi, c'est pour moi, ça, c'est ma foi. Chacun sa foi, tu sais, puis ça devient très personnel. Ou encore, les gens vont me dire, vont me saluer, vont dire, « Ah, pasteur, c'est bon ce matin, le message, tu sais, ça fait réfléchir. » Ça me fait réfléchir. On va penser à ça. On va penser à ça. Ça s'arrête là. Peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Je pensais au jeune homme riche lorsque j'étais en train de lire ce passage sur Malachie. Je pensais au jeune homme riche c'est Jésus qui rencontre un jeune homme, puis le jeune homme vient vers lui, puis il dit, « Jésus, c'est comme, je pense que j'ai trouvé celui qui enseigne la vérité. Moi, je veux te suivre. Ça a l'air qu'il y a des gens qui te suivent. Moi, je veux te suivre. Je veux marcher à ta suite. » Fait que Jésus, il dit, « Pas de problème. C'est super. C'est ça que je cherche, des gens qui veulent continuer à grandir, apprendre, tout ça. Fait que tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre toutes tes possessions. C'est un jeune homme riche. Il a beaucoup de richesses. Tu vas prendre toutes tes possessions. Tu vas toutes les vendre. Puis là, si vous avez peur que Jésus ait dit, tu vas venir me les donner. N'aie pas peur. Tu vas tout vendre tes possessions. Tu vas prendre tout l'argent, puis tu vas la donner aux pauvres. Parce que Jésus lui explique, il dit, moi, je suis un prédicateur itinérant. C'est ça le ministère de Jésus. Il dit, moi, une maison, un appart, tu sais, j'ai pas ça. Fait que, t'en as pas besoin si tu veux me suivre. T'auras pas besoin de ça. Tu vas vendre tous tes biens. Tu vas donner tout ça aux pauvres, puis tu viens, puis tu me suis. Le jeune homme riche, il dit, on va y penser. Pense à ça, je te rappelle, OK, on reste en contact. Puis il part le cœur lourd. Parce que ça devient concret. Ça devient très, très, très concret. Ça va être concret ce matin, vous allez voir, ça va être très concret. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu n'en a pas après notre argent. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Ce que Dieu voulait d'Israël, c'était leur cœur. Mais en même temps, notre argent parle tellement, tellement, tellement de nos cœurs. Notre argent parle tellement de nos cœurs. On ne pourra pas s'en échapper. On ne pourra pas s'en échapper. Le premier élément que je veux faire ressortir de ce passage-là de Malachie, c'est que l'alliance que Dieu avait traitée avec le peuple d'Israël, on a parlé de l'alliance la semaine dernière, le peuple d'Israël avait été choisi par Dieu pour traiter une alliance, puis il a dit, je vais vous apprendre à marcher comme j'aimerais que les hommes marchent, puis vous allez être un modèle, une nation qui va vivre selon mes préceptes, puis les peuples environnants vont voir ces belles valeurs-là, puis ça va être un témoignage vraiment à ma gloire, un beau témoignage devant les hommes qui vont découvrir tout ça. Cette alliance-là avait un aspect extrêmement concret. C'est pas simplement une alliance dans le cœur qui dit, ah, moi, je suis un juif, moi, je suis Dieu, moi, je sers à Yahvé. Ça, c'est mon Dieu, le Dieu qui a créé les cieux, c'est mon Dieu. Puis lorsque ça devient concret, oups. Non, l'alliance avait un aspect extrêmement concret, très tangible. J'ai mentionné, il y avait un temple dans l'Ancien Testament. Il y avait un temple, Dieu n'habite pas dans un temple de manière absolue et réelle, puisque si Dieu est Dieu, on va dire de Dieu qu'il est omniprésent, il est présent en tout lieu. C'est dur de le canner dans une boîte, tu sais. Il est partout. Donc, Dieu est partout, Dieu n'habite pas dans une maison. Mais en même temps, Dieu avait dit, vous êtes des gens qui fonctionnent avec les yeux, je vais habiter concrètement au milieu de vous. Vous allez me construire au départ un tabernacle, ensuite de ça, le temple, puis je vais habiter au milieu de vous, je vais être là concrètement. Mon esprit va résider, ce lieu-là va être particulièrement saint d'une manière vraiment particulière. Et donc, il y avait quelque chose de très, très concret à la fois. Tu ne pouvais pas être juif, descendant d'Israël, dire que tu servais l'Éternel, Dieu, puis en même temps que ça ne se traduise jamais dans le concret, dans le réel. Parce qu'il y avait un temple à entretenir. Puis comme on a mentionné, lorsqu'on arrive dans le livre de Malachie, le peuple revient de déportation dans une situation économique extrêmement difficile. C'est vraiment une fraction du peuple qui revient. La terre a été occupée, le territoire a été occupé, ils doivent tout reconstruire. Économiquement, ça va vraiment mal en Israël. C'est vraiment difficile. C'est une période de trouble économique. C'est une période de difficulté économique. Et à quelque part, le test qui est placé devant Israël, c'est que la foi, c'est bon dans les bons et les mauvais moments. La foi, ça se vit dans les moments difficiles comme dans les bons moments. J'oserais dire, et peut-être que vous passez par des moments d'épreuve, peut-être que ça peut être difficile d'entendre ces paroles-là, mais vous devez les entendre parce que les Écritures vont constamment dans ce sens-là. Dieu dit qu'il va éprouver notre foi à travers des épreuves. La valeur de ta foi, la qualité de ta foi se mesure dans les moments d'épreuve, pas dans les moments de bénédiction et d'abondance. La qualité de ta foi se mesure premièrement dans les moments d'épreuve. Et donc, lorsqu'Israël était dans cette épreuve économique, il y avait un test pour leur foi pour dire, est-ce qu'on va continuer à se confier en Dieu et faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie nos besoins? Est-ce qu'on va continuer à placer dans nos cœurs Dieu en tout premier lieu? Puis là, pour eux, comme je vous dis, c'est super concret. Le temple est là. Je veux dire, s'ils sont négligents, tu le sais. La bâtisse commence à avoir l'air d'une bâtisse abandonnée. C'est ça qui se passe. Les prêtres n'ont plus ce qu'il faut pour s'occuper des soins. Les sacrifices ne sont pas faits avec qualité. D'accord? Donc, c'est super visible, c'est super visuel. Et Dieu leur dit, je sais, c'est des moments difficiles. Mais vous négligez en ce moment vos dîmes, vos offrandes. Vous négligez dans ces moments de trouble-là d'être fidèle dans votre foi. Alors c'est pour ça que je vous dis, la foi, ça, c'est beau de dire j'ai la foi, mais ma foi, j'en connais la valeur lorsqu'elle passe à travers l'épreuve du feu, lorsqu'elle est éprouvée à travers les épreuves. Ma foi vaut ce qu'elle vaut dans les moments d'épreuve. Peut-être que c'est une parole qui peut vous sembler cruelle ce matin, peut-être que vous traversez des moments d'épreuve, des moments fort difficiles, puis vous dites, mais à ce moment-là, Yannick, tu es en train de dire que ma foi vaut rien parce que je t'avoue que la foi, j'en ai plus ben. Restez avec nous. Restez avec nous, vous allez voir. On a un bon père, on a dit tout à l'heure, qui a un cœur de mère, qui veut prendre soin de nous, restez avec nous. On n'a pas terminé. Par la foi dans les bons et les mauvais jours, Dieu dit dans Malachie 3:6, car je suis l'Éternel, je ne change pas, je suis encore là, Israël. Et puis il dit au verset 7 et 8, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Puis là, en français, ici, généralement, c'est traduit par tromper. Un homme trompe-t-il Dieu? Mais c'est trompé comme lorsque tu te fais avoir par un arnaqueur, d'accord? Donc, il y a beaucoup de Bibles qui vont traduire aussi « un homme vole-t-il Dieu? » D'accord? C'est pas une tromperie comme juste un petit mensonge, c'est un mensonge avec intérêt, d'accord? Un homme vole-t-il Dieu? Un homme peut-il arnaquer Dieu? Car vous m'arnaquez. Et vous dites « en quoi t'avons-nous arnaqué? » Mais dans vos dîmes et vos offrandes. Avec vos lèvres, vous louez Dieu, puis dans le concret, ça se traduit pas en action. Et je sais que c'est troublant parce que dans notre société, on a vu toutes sortes d'abus, on a vu toutes sortes de choses se passer. Fait que c'est comme, faut pas mêler ces affaires-là, tu sais. Il y a une expression au Québec qui, on appelle l'argent au Québec du bacon, hein. J'ai fait une petite traduction différente d'un verset qu'il y a dans la Bible. J'ai dit, là où est ton bacon, là aussi sera ton cœur. Does it make sense? Vous êtes avec moi? Pour les Français, votre blé, d'accord? Votre blé, là où est ton blé? Mais ici au Québec, c'est pas l'agriculture, c'est plus le porc, gros jambon, mais là on s'en va ailleurs, d'accord? On s'en va ailleurs. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que je peux pas vraiment dissocier mon temps de ma foi. Comment j'utilise mon temps parle de ma foi. Mon argent, comment j'utilise mon argent parle de ma foi. C'est vrai dans nos relations humaines. Dis à ta femme que tu l'aimes, puis trouve jamais de temps pour elle. Dis à tes enfants qui sont précieux, trouve jamais de temps pour eux. Non, non, mais je vous aime, je vous écris des lettres tous les jours. Concrètement, ça veut dire quoi ça, papa? Ça veut dire quoi, maman? Comprenez? Ça se traduit dans le réel, la foi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le concret. Là où est ton bacon, là où est ton cœur. Et donc, c'était ça pour Israël. Ah oui, vous vous réclamez de Dieu, mais qu'est-ce que vous faites avec ma maison? Comment est-ce que vous en prenez soin? Et Dieu sait de quoi on est fait. Pour ça, je vous dis, lorsque je vous dis la qualité de votre foi, on la connaît dans les moments d'épreuve, cette parole-là peut sembler cruelle si vous passez à travers des épreuves difficiles puis vous dites, hey, le smat en avant, si tu avais passé par là où je passe, je suis pas sûr que tu serais en train de nous faire un sermon ce matin. Tu serais peut-être dans ton coin en train de pleurer. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît dans nos beaux moments, nos moments glorieux, puis dans nos moments minables et pathétiques. Dieu nous connaît. Et c'est facile de manquer ça dans le livre de Malachie, au verset 6. Dieu est en train de dire, « Je suis encore là, Israël. » Il dit au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Rappelez-vous, au début de Malachie, Dieu avait dit à Israël, qui sont les descendants de Jacob, pas d'Ésaü, « J'ai choisi Jacob. » Je vous ai aimé, vous êtes encore là. Vous êtes une nation, je vous ai ramené en Israël. Et Dieu leur dit ici, Israël, écoute-moi, peuple d'Israël, je ne change pas. Mes promesses demeurent, je suis le même. Et vous n'avez pas été détruits. Vous êtes un petit peuple, une petite nation, vous auriez pu être éradiqués, détruits, annihilés, zip, fini, on n'entend plus parler d'Israël. Combien de fois dans son histoire, Israël a passé un cheveu d'être complètement exterminé? Encore aujourd'hui, il y a une nation qui est là. Et à travers ça, on a cette beauté de l'Évangile qui est le Dieu qui pourvoit notre salut, qui prend soin, qui demeure, qui est là, qui connaît notre faiblesse. Et donc, ce que Dieu dit tout de suite après, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Au verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. » « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. » Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Un cœur vraiment repentant. Pas un cœur qui prétend se repentir et qui ne passe pas à l'action. Non, non, il y a une action « Revenez à moi ». Mais le cœur de ce passage-là, lorsqu'on parle des dîmes, des offrandes, du temple, on parle d'argent, on parle de choses très concrètes. Le cœur de ce passage-là, c'est ce verset-là. « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Parce que Dieu est là constamment et nous tend la main. Et donc, lorsque je suis dans l'épreuve, parce que la vie est difficile, parce que je suis en train de perdre la foi, Dieu est là, me tend la main. Il dit « Viens, viens, je vais te supporter, viens, je vais être là, viens, je vais être là avec toi. » Ta foi n'a pas été à la hauteur. Concrètement, ta vie ne ressemble pas à une vie chrétienne très mature. Ton témoignage n'est pas glorieux. Viens à moi, je vais revenir à toi. Et cette grâce-là est présente à travers tout l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu de grâce. L'alliance de l'Ancien Testament est une alliance de grâce, d'accord? On arrive à la loi dans un instant. L'alliance de l'Ancien Testament est une alliance de grâce aussi. Parce que Dieu est gracieux envers son peuple. Et lorsque Dieu lui dit, « Change pas les amis, je suis encore là, j'ai fait alliance avec vous, je suis encore là, vous n'avez pas été détruits, n'est-ce pas? » Et donc Dieu te dit ça à tout moment dans ta foi quand tu t'es écarté, quand tu t'es éloigné, quand tu dis, « Si tu savais comment que ma foi est minable, si tu savais ce que je fais avec mon argent, c'est n'importe quoi, je suis dans le trouble jusque-là, de la générosité, oublie ça, je ne peux pas être généreux, regarde dans le trouble que je me suis mis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Et là, tu as l'impression que Dieu comme... te livre à toi-même, il t'abandonne là-dedans. Au cœur repentant, Dieu est toujours présent. Tout ce que Dieu demande, c'est « Viens, viens vers moi, tourne-toi vers moi. Renonce à poursuivre ce que tu poursuivais, puis reviens vers moi. Je vais venir vers toi. » C'est présent dans tout le Nouveau Testament, c'est présent dans le livre de l'Apocalypse. C'est une relation constante entre Dieu et nous. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, on lit dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Repentez-vous donc, c'est exactement ça qu'il y a dans Malachie, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » C'est un cœur qui se détourne de la direction où il était, qui revient, qui se tourne vers Dieu, puis qui est prêt à aller dans le concret, dans le réel. Par la foi. Parce que je sais qu'à partir du moment où je me repens, puis que je me tourne vers Dieu, Dieu commence à prendre la direction vers moi aussi. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre chacun d'entre nous. Qu'on prend au jour de notre salut, lorsqu'on décide de croire en Jésus-Christ, et qu'on prend, je vous dirais, ma foi tous les jours, chaque matin. Et ces derniers jours, je vous dis, hein, souvent, avant de me lever le matin, je revois l'Évangile dans mon cœur, tout ça. Ces derniers jours, j'étais là et je disais, oh, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce pour juste passer à travers mes journées puis le faire avec joie. Puis je suis comme, bah, grosse semaine, plein de travail, plein de besoins. J'ai besoin de ta grâce. Mais c'est ça que je fais le matin. Le matin, ce mouvement-là de mon cœur pour me repentir, c'est de dire, Seigneur, j'aurais le goût de prendre tout ça sur mes épaules puis essayer de faire ça par mes forces puis me plaindre toute la journée parce que je suis débordé puis c'est lourd, mais je me repens de ça, Seigneur. Je me tourne vers toi. Je veux m'appuyer sur ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes vers moi. J'ai besoin de m'appuyer sur toi, Seigneur. Je le fais quand ça va mal, quand ça va bien. Et je me tourne vers lui, je me repens. C'est une alliance de grâce à laquelle Israël est invité et Dieu est encore en train de les appeler, encore et encore et encore, en train de les appeler à se repentir, à revenir à lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme chrétiens concrètement? On ne va pas construire un temple la semaine prochaine. On ne va pas recommencer à offrir des sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Concrètement, la dîme, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, parler au Québec d'argent. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à l'Église cette semaine. Ce n'est pas le sujet à chaque semaine, okay, en passant. Des fois, on a d'autres sujets. Mais en même temps, je me dis, les Québécois puis l'argent, c'est quelque chose. Hein? Super endetté, un peuple qui a vécu dans l'humilité, dans une certaine pauvreté pendant si longtemps, découvre la prospérité et embarque là-dedans à fond. Des conflits entre les générations, parce qu'une génération dit à l'autre, c'est beau, vous avez fait du fric, il est collé votre argent, vous allez avoir une belle retraite. Comment nous, on reconstruit la société? Notre remède à quoi? Si on s'endette à fond, vive les cartes de crédit. Les jeunes rentrent au cégep, on leur envoie des cartes de crédit par la poste pratiquement. Tu sais. Ils sortent des études endettés jusque-là. C'est correct de parler d'argent aussi. C'est correct de parler d'argent aussi. Ça parle beaucoup de notre cœur, puis des fois du manque de maîtrise de soi, puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. C'est correct de parler d'argent. Comment est-ce qu'on donne sous la nouvelle alliance? La semaine dernière, on a parlé de ça. Vous vous rappelez? Ancien Testament, l'ancienne alliance, puis Jésus parle lorsqu'il vient d'une nouvelle alliance, où il invite explicitement cette fois tous les hommes de la terre, de toute nation, de toute tribu. Il n'y aura plus comme un seul peuple à un endroit visible, mais c'est un peuple éparpillé parmi les hommes qui se réunissent dans des petites congrégations, dans des églises locales comme ça. Donc c'est une nouvelle alliance. On rentre dans cette alliance-là par la foi. Par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est venu offrir le sacrifice parfait. C'est important, suivez-moi, parce que ça pose des questions par rapport à notre générosité aussi. Alors, dans tout l'Ancien Testament, Dieu a le temple qui est là. Concrètement, les gens peuvent venir offrir des sacrifices. On arrivait avec une bête qui était là, qui allait être offerte en sacrifice pour représenter le sacrifice pour nos péchés. Puis une partie de la bête était brûlée sur l'autel. Une partie de la bête allait pour nourrir les familles des prêtres qui faisaient le service. Souvent, une partie de la bête était gardée pour faire la fête ensemble de cette alliance-là qu'on a avec Dieu. Puis c'était très, très, très concret. Mais tout ça, c'était symbolique. Tout ça, c'était symbolique. C'était bien réel, parce que dans l'Ancien Testament, les croyants étaient sauvés, dans notre jargon, par la foi, n'est-ce pas? Mais par la foi dans un sacrifice parfait qui viendrait, celui de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est venu. Est-ce qu'on va reconstruire un temple? Non. Jésus-Christ est notre temple. Connaître Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, c'est entrer dans la présence de Dieu. Où est-ce que je vais si je veux aller dans le lieu saint aujourd'hui? J'ai connu Jésus-Christ, il m'a donné une promesse extraordinaire. À celui qui place sa foi en moi, je vais donner mon esprit. Alors Paul va aller jusqu'à dire, non seulement Christ est notre temple, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le lieu saint que je cherchais dans l'Ancien Testament, dans le temple, c'est censé être mon corps dans une certaine mesure qui est consacré parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Ça change des choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on va donner? On va entretenir un temple, on va entretenir des prêtres. Non, il n'y a plus de prêtres. Tous les croyants sont des prêtres. Cette erreur fondamentale prônée par l'Église catholique où tu vas aller vers un prêtre. Puis lui va être le médiateur entre toi et Dieu. Tu dois aller te confesser à un prêtre, puis lui, il va te recevoir, puis il va te donner sa bénédiction. Le problème grave, énorme avec ça, super grand. C'est qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Je retourne dans l'Ancien Testament, il y a comme une gang de prêtres qui sont mis à part, puis eux autres, ils ont comme, c'est eux qui peuvent te donner le passage pour aller vers Dieu. C'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne, il n'y a plus de prêtres. Oui, il y a des prêtres, tous les croyants sont prêtres. Tous les croyants sont prêtres, tous les croyants peuvent entrer dans la présence de Dieu. On a ce privilège d'intercéder en faveur du monde autour de nous, de prier pour Fort McMurray, on a le privilège de prier pour nos familles, on a le privilège de devenir des intercesseurs. Ce que le souverain sacrificateur allait faire une fois par année lorsqu'il entrait dans le lieu saint, il venait intercéder. Christ le fait pour nous et nous on le fait pour les gens qui nous entourent. Je deviens un intercesseur. Alors comment ça marche dans la Nouvelle Alliance? Il n'y a plus de temple. Oui, il y a un temple, Christ est notre temple, il est spirituel, il n'est pas très concret, il pourrait pas être très concret. Il n'y a plus de temple, mais c'est notre corps, on est habité par l'esprit, il n'y a plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre rapport à la loi? Alors, juste en quelques minutes, on va parler ensemble de ça. Le chrétien est la loi, le chrétien est la générosité, le chrétien est ses bénédictions. Très rapidement, d'accord? C'est quoi notre rapport à la loi? La loi de l'Ancien Testament demeure en très grande partie un guide moral pour nous. On a parlé de ça lorsqu'on a parlé des 10 commandements, d'accord? Mais on va revenir sur ça un petit peu ce matin. La loi de l'Ancien Testament demeure un guide moral pour nous, une référence, une manière de comprendre la sainteté de Dieu, comprendre la justice de Dieu. Et de bien des manières, cette loi-là, qui était très prescriptive, très précise, est maintenant inscrite dans nos cœurs par l'Esprit-Saint parce qu'on porte en nous la loi de Christ. Il y a vraiment cette idée que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, les chrétiens, plus ils grandissent en maturité, deviennent eux-mêmes des enseignants. D'accord? C'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. C'est pas tout le monde qui est appelé à être confortable, admettons, à parler en public ou des choses. Pas tout le monde. Tous les chrétiens sont appelés à devenir eux-mêmes des enseignants parce qu'ils portent l'Esprit de Dieu en eux. Ils portent en eux la loi de Christ, nous dit le Nouveau Testament. Et donc, je peux lire tout l'Ancien Testament et dire, hey, il y a des implications éthiques ici, voici ce que ça me dit que je devrais faire. Hey, ça parle de générosité, prendre soin de l'étranger, prendre soin de la veuve, prendre soin de l'orphelin, bien traiter mes employés. Il y a plein d'implications éthiques. Ça devient une espèce de guide moral où je suis comme, à quelque part, autonome. Je peux lire ça, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, puis je dis, voici comment ça se traduit au travail, dans ma famille, autour de moi, avec mes voisins. Je deviens autonome, je porte cette loi de Christ-là en moi. Plus que ça encore. Beaucoup plus que ça encore. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, qui était relié avec le service du temple, à quelque part, est accompli en Jésus-Christ. Donc, on ne va pas recommencer à construire un temple, à offrir des sacrifices. Mais Paul nous dit, d'une autre manière, on va offrir des sacrifices beaucoup plus grands, qui ne se comptent pas avec des sous, qui ne se comptent pas avec des tablettes, avec des calculettes, des sacrifices qui sont notre corps entier. Paul va dire, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Et donc, il y a quelque chose qui change profondément quand j'arrive dans le Nouveau Testament. Je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, mais je porte la loi de Christ dans mon cœur. Et plutôt que de dire, OK, là, on va se rendre au temple, on va aller faire notre service à Dieu, à chaque seconde de ma vie, à chaque instant de ma vie, avec ma santé, avec mon argent, avec mon temps, qui est probablement ma plus grande richesse sur la terre, avec tout ça, avec les ressources que j'ai autour de moi, tout ça, c'est au service de Dieu. Si mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, on s'entend que le temple est au service de Dieu, mon corps est au service de Dieu. 1 + 1, ça fait 2. Donc, ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire que j'ai pas comme la légitimité, j'ai pas tout à fait le droit de dire, OK, Seigneur, je vais calculer ça dans l'Ancien Testament, il donnait au moins 10% à la dîme, c'est ça, 10%. Il y avait même des dîmes, il y avait même des offrandes. Fait que moi, je vais donner 10% de mon temps, 10% de mon argent, je vais donner 10%. OK, je vais donner 10%. Quand j'ai fait ça, c'est fini, j'ai fait ma job, mon devoir est fait, je peux aller m'occuper de mes affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour le chrétien. C'est pas vraiment comme ça que ça devait fonctionner pour les Juifs non plus, d'accord? J'ai pas le temps de m'étendre sur ça vraiment. Ils étaient appelés à vivre vraiment avec intégrité, ces valeurs-là partout. Mais Dieu donnait plein de lois qui t'aidaient à dire, OK, quand t'es là, c'est comme ça que ça se passe. Quand t'es là, c'est comme ça que ça se passe. Avec ton argent, c'est comme ça que ça se passe. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Cette loi-là est inscrite dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Puis là, je deviens plutôt comme un intendant. Je suis un intendant. Dieu dit, regarde, je vais donner de la santé, tu vas me glorifier avec ça. Je te donne un job, tu vas me glorifier avec ça. Je te donne de l'argent, tu vas me glorifier avec ça. Je te donne des relations autour de toi, plein d'opportunités, tu vas me servir avec ça. Puis à travers ce service-là, tu vas trouver ta joie, ton repos. Tu vas trouver ton repos parce que tu vas voir l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans ton cœur. Tu vas dire, waouh, ça c'est l'Évangile qui me transforme, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Ça change énormément de choses parce que lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, c'est difficile de trouver dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, une prescription explicite qu'un chrétien, un croyant sous la Nouvelle Alliance, doit donner 10% tout le temps. Je l'ai dit, 10%. C'est difficile de trouver un endroit où, OK, là, il va falloir... Il est question de la dîme. Jésus parle aux Juifs et il dit, vous auriez dû aimer, servir, prendre soin, puis ne pas négliger la dîme. D'accord? Mais c'est difficile de trouver vraiment des prescriptions claires. Puis lorsqu'on étudie l'Église à travers l'histoire, rarement les pasteurs, les théologiens ont essayé de faire une défense explicite que, OK, oui, toutes les autres lois, rituels, tout ça autour du temple sont accomplies en Jésus, mais celle-là, ça n'est pas accomplie parce que, tu sais, on va se donner un barème. Puis dans le fond, c'est un peu là que ça s'en va, d'accord? Ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus que toute ma vie appartient à Dieu. Alors, si vous me demandez à moi, si vous voulez notre témoignage à ce temps-là, je l'ai déjà dit souvent à l'Église, pour nous, on s'est dit, puis on était enseigné comme ça au début, la dîme, c'est un bon point de départ. La dîme, c'est un bon point de départ. C'est comme ça qu'on s'est dit. Je me suis dit, OK, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il ne comprenait pas qu'il fallait atteindre toutes les nations de la terre. Nous autres, on va envoyer des missionnaires partout qui vont aller annoncer l'Évangile. On veut aider les gens autour de nous. On veut s'occuper d'un bâtiment. On veut faire tout ça. 10% c'est un minimum. Seigneur, apprends-nous à donner plus. Des fous. Des fous de Dieu! C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Puis peut-être vous dites, t'es malade, mon vieux, si tu savais, je suis tellement loin de ça, je peux pas faire ça. C'est là que je te dis, tu vas apprendre à grandir dans ta foi, tu vas apprendre à marcher dans ta foi, tu vas apprendre à marcher par la foi. La foi, c'est pas juste bon quand tu perds ta job. Tu comprends? La foi, c'est bon quand tu as une job. Ça change de quoi au réel. La foi, c'est pas juste bon quand tu deviens malade. La foi, c'est bon quand tu es en santé et tu rends grâce à Dieu pour la santé puis tu cherches comment tu peux servir Dieu avec ton temps. Et donc, ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus une règle de générosité qui est là constante à travers le Nouveau Testament. Portez les fardeaux les uns des autres dans Galates 6, 2 et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jésus dit à quelque part que quelqu'un qui vient à Christ va trouver une famille, des maisons, un foyer, une sécurité. Et donc, on apprend à prendre soin les uns des autres en partageant, en donnant généreusement, en étant là les uns pour les autres. Alors, si vous voulez des passages qui parlent de donner, pourquoi donner dans le Nouveau Testament? Dans 1 Timothée 5, 17, 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et après ça, il continue, Paul dit, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Vous voulez savoir à quoi sert la loi de l'Ancien Testament? Elle sert à l'appliquer avec discernement dans le Nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cite une loi de l'Ancien Testament. Comment tu vas traiter ton bétail? Bon, ben, le bœuf qui est en avant sur le stage, qui est en train de vous enseigner, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Visez le discernement. Prenez soin. C'est ça l'idée. C'est juste ça qu'il dit. Voyez, on a la loi de Christ dans notre cœur. On lit l'Ancien Testament puis on se dit, OK, si les gars sont là, sont en train de servir temps plein comme des fous, l'Église va être là pour prendre soin. Alors, si c'est la première fois que vous venez dans une église évangélique, vous dites, aïe, aïe, j'arrive là, il parle d'argent. Il faut que vous réalisiez quelque chose, d'accord? C'est super important. Le bâtiment ici, il n'y a pas de subvention gouvernementale pour s'occuper de ça. C'est votre générosité qui fait qu'on peut payer un bâtiment. Les missionnaires qu'on soutient, c'est votre générosité qu'ils font. Le fait que moi, je peux me consacrer à temps plein comme un fou avec les autres pasteurs qui sont là, c'est votre générosité, notre générosité, parce qu'on participe, comme je vous ai dit, généreusement. Mais c'est juste comme ça que ça fonctionne. Puis là, il y a plein de besoins. Quand on parle d'une église comme celle-ci, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, il y a combien d'églises où il y a à peu près 400 personnes le dimanche matin au Québec? Où il y a des gens qui sont en train d'être formés pour le counseling, où il y a des gens qui sont en train de prendre soin des couples qui sont en formation pour se marier, des gens qui, des familles pour pouvoir les instruire dans l'éducation de leurs enfants, une jeunesse où on a de l'espace pour accueillir des événements puis faire venir des gens de plein d'églises au Québec puis prendre soin d'eux, les servir. Combien vous pensez qu'il y en a au Québec? Très, très peu. Très peu. Et donc, on le fait avec une vision de générosité nous-mêmes, où on veut prendre soin. Cette semaine, j'ai une rencontre avec des pasteurs, où on va dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider les plus petites églises sur la rive sud? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a une vision pour implanter des églises. Comment on va faire ça? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe lorsque l'association se pointe à Longueuil puis ils disent, OK, Longueuil, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Parce que si vous, vous pouvez pas nous aider, on est vraiment mal pris. Et tout ça, repose sur notre générosité. Ça repose sur notre générosité. Sur cette foi très... qui devient concrète à travers notre générosité. Et donc, c'est ça que je trouve à travers tout le Nouveau Testament. On trouve ce principe dans Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Fort McMurray, l'opportunité de donner à ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, je termine avec quelque chose qui est super important. Il y a une... avez-vous déjà entendu le mot hérésie? Hérésie, ça vous dit quelque chose? Non? Une hérésie, c'est un faux enseignement qui contredit les Écritures. D'accord? Pas bon. Super pourri. L'Évangile de la prospérité. L'Évangile de la prospérité, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? C'est Dieu t'aime beaucoup, il a beaucoup d'argent dans son compte de banque. Si tu peux y en passer un peu pour qu'il puisse le placer, il va faire de l'intérêt, tu vas avoir plus d'argent dans ton compte de banque encore. Puis plus tu vas donner, plus il va en mettre. Puis plus tu vas remplir, plus il va t'en redonner. Puis tu vas voir, ça va être au centuple, au millième. Il va le faire avec ton temps, avec ton argent. Si tu marches avec Dieu, tu donnes avec Dieu. C'est la saison pour donner avec Dieu. Actuellement, Dieu nous a dit, dans la prière, que c'est une saison pour donner. Si vous donnez au Seigneur maintenant, vous allez voir, votre compte de banque va se remplir. C'est l'Évangile de la prospérité. Vous allez dans les pays les plus pauvres, c'est là qu'il est le plus présent. La plus grande église en Amérique du Nord, je vais dire un mot qui va vous offenser. Le pasteur s'appelle Joel Osteen. Souvent, il dit la vérité. Souvent, il prêche l'Évangile de la prospérité. Souvent, il prêche l'Évangile de la prospérité. C'est une saison pour semer. Vous allez récolter en abondance. On est dans Malachie. Leur passage préféré, Malachie 3, 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Est-ce que Dieu dit la vérité ou il ne dit pas la vérité? Il dit la vérité. Il est en train de parler de la pluie. Fort McMurray, actuellement, veut que les écluses des cieux s'ouvrent. Pas pour que les plantes poussent, pour que les feux s'éteignent, d'accord? Et on est dans l'Ancien Testament, c'est vraiment important de saisir ça. On est dans l'Ancien Testament, Israël est un territoire qui, par sa vie, sa fidélité, ses bénédictions, doit démontrer la gloire de Dieu. Et Dieu donne plein de promesses super concrètes dans l'Ancien Testament. Ce sont vraiment là, ces promesses-là, d'accord? Comment est-ce que ça se traduit dans le Nouveau Testament? La majorité du temps, ça se traduit en bénédiction spirituelle. Et donc, il y a comme une espèce d'inversion qui se passe dans le Nouveau Testament. Dieu te bénit pour que tu sois généreux. C'est ça que je trouve dans le Nouveau Testament. Ce que je lis ici dans Malachie, c'est « Sois fidèle, Dieu va te bénir. » D'accord? C'est ça que je lis dans Malachie. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, ce que Paul va dire, c'est « Dieu t'a donné un emploi, un travail pour que tu sois généreux. » Dieu te bénit. C'est l'Évangile. Christ est venu mourir pour que tu sois sauvé. Ensuite, tu vas offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Dieu te bénit pour que tu répondes et que tu sois généreux. Et c'est ça que je trouve généralement dans le Nouveau Testament. Je termine avec ce passage-là ce matin. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 11. « Sachez-le. » Celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et donc, Dieu pourvoit à vos besoins pour que vous soyez généreux. Dieu vous donne pour que d'autres soient bénis. Et votre bénédiction se trouve dans le fait de faire du bien aux autres. Je ne donne pas à Dieu pour que Dieu remplisse mon compte de banque. Je donne parce que Dieu m'a donné. Je donne parce que Dieu m'a donné Jésus-Christ. Je donne mon temps par la foi parce que Dieu m'a donné. Je donne généreusement pour pourvoir des besoins parce que Dieu m'a donné. J'écoute les besoins dans l'Église, les projets dans l'Église, le budget de l'Église. Je regarde où est-ce qu'on en est avec les finances. Il y a des besoins qui se présentent à moi. Il y a des situations avec des chrétiens qui souffrent dans le monde. L'Église, on dit, hey, on pourrait aller aider dans cette situation-là. Je vais mettre ça dans la prière. Je fais pas ça pour que Dieu remplisse mon compte de banque. Je fais ça parce que Dieu remplit mon cœur de l'Évangile de Jésus-Christ. Et tout simplement, je laisse Dieu pourvoir à mes besoins. Je prie lorsque je cherche un emploi. Et donc, dans un certain sens, c'est vrai que j'apprends à mettre Dieu à l'épreuve. Mais honnêtement, c'est plus ma foi que je mets à l'épreuve. Je prends Dieu dans ses promesses, puis je dis, Seigneur, c'est toi qui t'occupes de moi, je vais te donner généreusement. Tu vas prendre soin de nous, j'ai confiance en toi. Pas avec un évangile de la prospérité, parce que si Dieu décide que je vais donner dans un moment de disette, un moment plus difficile, Esther et moi, on s'est toujours fait un principe. On a décidé combien on donnait au début de l'année, on va être fidèles. Dieu va s'occuper de nous. Oui, mais ça veut dire que tu vas perdre une coupe de livres cette année. Je vais perdre une coupe de livres. À un moment donné, c'était pas ça, on mangeait juste des pâtes. Ça veut dire que tu vas prendre une coupe de livres cette année. C'est les pâtes qui coûtaient moins cher. C'est correct, Seigneur, pas de problème avec ça. Pas de trouble avec ça. Tu t'occupes de nous. Tu prends soin de nous. Souvent, la foi, ça a l'air de quelque chose d'intangible. Dieu est invisible. Pour Dieu, son amour pour les hommes n'avait rien d'intangible. C'est extrêmement concret. Jésus-Christ s'est incarné et s'est rendu à la croix. L'amour de Dieu pour toi et moi a été super concret. C'est sur une croix, un Christ brisé. J'ose dire à la fin, lorsqu'il s'écrit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Confus dans sa souffrance à travers ça. Mais qui se donne pour le salut des hommes. Pour Dieu, son amour pour toi et moi est très concret. Et lorsque j'ai saisi ça, puis ça rentre dans mon cœur, ma foi devient quelque chose de très, très concret. Parce que je veux agir par reconnaissance, puis être généreux. Je regarde dans l'Ancien Testament, je regarde la générosité qui était demandée, puis je dis, OK, eux autres étaient sous la loi, moi j'ai la loi de Christ dans mon cœur, je suis un intendant. J'ai à bien gérer mon temps, mon argent, mes ressources, pour la gloire de Dieu, puis à offrir tout ça comme un sacrifice vivant pour rendre grâce à Dieu. Et Dieu va nous conduire dans une belle générosité très concrète, très, très concrète. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, c'est facile de rêver de Dieu, de s'imaginer un Dieu qui nous soutient dans les moments difficiles, un Dieu à qui on peut se plaindre quand ça va mal. Un Dieu qu'on peut aimer ou haïr selon qu'on l'a conçu, imaginé. Ce n'est pas le Dieu que nous avons connu, Seigneur. Parce que nous avons connu Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est venu marcher parmi les hommes, qui est venu s'offrir lui-même très concrètement. Il n'est pas resté aux paroles, au beau langage, à la grande sagesse. Incroyable, qui s'est rendu très concrètement à la croix. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons élever ton nom, nous voulons célébrer ta grâce. Cet amour concret manifesté à la croix par ton sacrifice, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette vie nouvelle maintenant qui est en nous, dans nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous à nous donner entièrement, Seigneur, par reconnaissance, par action de grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.